Mais, pourrait-on dire, surgit une sorte d'angoisse et qui a surgi, bon, bien naturellement, dans les milieux philosophiques et théologiques, lorsque Darwin a publié son texte. Alors, l'angoisse serait, oui, mais enfin, si l'évolution est liée à un mécanisme variation, sélection brutale, si toute l'émergence des structures est liée à un mécanisme de mutation aléatoire et de sélection, alors d'une certaine manière, la vie ne serait qu'un phénomène aléatoire et peut-être que l'homme ne serait que finalement le produit d'une évolution plus ou moins hasardeuse, hein, où on ne retrouverait plus guère, philosophiquement et théologiquement, l'idée d'une finalité, d'un projet de Dieu, etc. D'où la crainte, si vous voulez, présente, la crainte présente lors du développement de la théorie de l'évolution. Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que la théorie de l'évolution est une théorie scientifique. Et le caractère proprement scientifique de cette théorie a fait que, malgré quelques petites turbulences initiales, il est important de savoir que l'Église n'a jamais mis Darwin à l'index. Elle aurait pu, à l'époque ça se faisait couramment. Et deuxièmement, l'Église a progressivement reconnu le caractère légitime de la théorie darwinienne en tant que théorie scientifique, pour expliquer la matérialité de la vie. D'accord ? On a, au cours de l'histoire du XXe siècle, certaines propositions allaient dans le sens « on va condamner la théorie darwinienne de l'évolution ». Eh bien, Pie XI, Pie XII, ensuite Jean-Paul II et Benoît XVI s'y sont opposés et au contraire, on produit des textes qui disaient dans l'essence ceci, si vous reprenez Humani Generis, l'encyclique de Pie XII en 1950, Pie XII dit, pour ce qui est du développement matériel de la matière, si vous voulez, constitutive de la vie, il est tout à fait légitime d'utiliser un schème, disons, scientifique, et autrement dit, la théorie de l'évolution. Jean-Paul II dit lui-même, la théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse, ça veut dire que ce n'est pas seulement une hypothèse passagère, c'est une théorie qui explique très bien maintenant l'évolution du vivant en tant que dans sa dimension matérielle. Mais, bien entendu, Pie XII comme Jean-Paul II, il faut relire ce discours à l'Académie pontificale de 1996, très beau discours sur la théorie de l'évolution, Pie XII comme Jean-Paul II disent ceci. Bien entendu, s'agissant de l'homme, hein, s'agissant de l'homme, il faut maintenir absolument l'idée d'une création immédiate de l'âme, hein, donc qui, elle, n'est absolument pas liée à une quelconque évolution biologique darwinienne. On pourrait, pour reprendre l'esprit de ce discours, dire que l'évolution darwinienne, vous voyez, est comme un peu la construction, ce sont les étapes de la construction d'une cathédrale, et on pose les fondations, on met les murs, etc. Et dans le fond, l'édifice commence à grandir. Mais l'édifice, et je reprends une image que Maurice Blondel, le philosophe français, donnait, l'édifice n'aura sa pleine consistance et ne prendra toute son ampleur que quand l'édifice recevra par le haut, si vous voulez, la clé de voûte qui va stabiliser et qui va donner tout son sens et sa consistance à l'édifice tout entier. C'est un peu ça l'idée. Donc, la théorie de l'évolution explique de façon parfaite la préparation de la structure, si vous voulez, mais qui n'est pleinement alors un homme, un être humain, au sens spirituel, que s'il reçoit un don gratuit qui unifie et vivifie toute cette structure, si vous voulez. Et ça, on ne peut pas échapper à cette dimension transcendante du don de l'âme, mais qui, elle, n'a rien à voir avec cette évolution biologique. Donc, pour résumer, la position du magistère serait, pour ce qui concerne la structure matérielle de la vie, il est tout à fait légitime d'utiliser la théorie darwinienne. Mais évidemment, d'un point de vue fondamental, on ne comprendrait rien à l'homme si on laissait de côté cette dimension du don transcendant de l'âme, qui est la création immédiate de l'âme, par Dieu. Oui.
Du coup, l'Église laisse en suspens cette question du temps, parce que là, on est dans l'âme du scientifique.
Oui.
Et donc, du coup, il y a bien un moment temporel
où
l'homme aurait, en tant que du coup, la Église scientifique, quelque part, reçu cette dimension divine.
Oui, c'est-à-dire que l'Église ne se prononce pas sur une chronologie scientifique. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que il ne faut pas voir ce seuil de l'hominisation, de l'humanisation, de la façon suivante. J'ai une structure matérielle. Là, l'image de la clé de voûte est un peu mauvaise aussi. J'ai une structure matérielle qui était quasi ressemblant à un homme, mais ce n'était pas un homme. Et puis je parachute là-dedans une âme qui en fait un homme. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut plutôt voir, c'est, de fait, il y a un moment où la transcendance rejoint l'immanence, mais ça doit être pensé comme un moment conjoint. C'est-à-dire qu'on doit le penser comme un moment où à la fois quelque chose bascule du point de vue physique et se transforme d'un point de vue spirituel. Donc ce n'est pas un singe qui ressemblait à l'homme qui subitement reçoit une dimension spirituelle, sinon ce serait un dualisme. Or, l'anthropologie biblique exclut ça. C'est une unité, âme et corps. Ce n'est pas une âme qu'on parachute dans un corps. Donc, il ne faut pas se représenter ça comme une espèce de singe qui gambadait dans la savane, et tout d'un coup, bouffe, il lui tombe une espèce de boulet qu'on appelle l'âme. Je suis humain. Et non, ce n'est pas ça. Il faut plutôt voir cela comme une sorte de seuil où, de manière concomitante, un basculement physique qui rend possible des capacités, etc., est concomitant avec le don surnaturel et ces deux choses faisant un tout d'une unité âme et corps. D'accord ? Mais il y a bien un moment, c'est probablement dans l'espace où un certain nombre de mutations font que l'individu est capable d'avoir une masse cérébrale telle qu'il peut se représenter lui-même, peut être conscient de ce qu'il fait. C'est dans le même moment. Un peu, je dirais, un peu analogue, pas tout à fait le même, mais c'est l'analogue, dans l'animation de l'embryon humain. C'est-à-dire, quand l'âme est-elle créée ? On pourrait dire, l'homme existe dès la conception. Et donc ça veut dire qu'il y a une sorte à la fois de processus qui est physico-chimique et qui est la fécondation, mais c'est à la fois un basculement du point de vue physico-chimique et à la fois un don qui vient à cette occasion, qui est comme, on pourrait dire, non pas nécessité, puisque c'est un don gratuit, mais on pourrait dire que Dieu, dans sa grande bonté et sa grande patience, permet que les choses se mettent en place et appelle la réception d'un don, d'une certaine manière.
Du coup, en fait, on a deux choses qui se confrontent, et c'est pour ça qu'on pose encore ce vide. C'est-à-dire que la première, c'est cette théorie de l'évolution darwinienne que l'Église accepte en tant que réalité.
Oui.
C'est cette chose de manière magnétique qui dit que l'homme est âme, l'homme a de nature divine.
Oui.
Lorsqu'on confronte ces deux réalités, on se trouve devant cette question qui est encore suspendue.
Oui, mais la question du seuil est une question que, dans le fond, ni la science ni la théologie ne pourront résoudre complètement dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit dire que quelque chose a basculé physiquement et spirituellement, mais la question de du quand échappe en partie. C'est un peu, ce problème se retrouve chaque fois que la transcendance entre dans l'immanence. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, On sait qu'il est là lors de la consécration, mais ça n'aurait pas de sens d'aller dire à un horloger suisse de venir avec un chronomètre pour, à la microseconde près, préciser l'arrivée du Christ. Hein? Non pas qu'il ne soit pas précisément dans l'histoire et réellement présent dans la célébration, donc dans la temporalité, mais dans le fond, cette présence est tellement plus grande que la temporalité que la question du chronométrage à ce moment-là perd son sens. Non pas qu'il n'y ait pas arrivé dans de la transcendance dans l'immanence, donc dans la temporalité, hein, mais la question du temps T, finalement, avec cette précision-là, perd son sens. Non. C'est dans la temporalité, effectivement, il y a des critères objectifs, mais ni la science ne déterminera jamais quand le Christ est là avec un chronomètre. Même si on doit dire qu'il est là dans le temps.
Deux natures différentes.
C'est bien pour ça que je disais, il est important de distinguer, mais d'articuler, parce que la personne qui dirait, oui, mais donc, alors ça veut dire qu'il n'est jamais là à un certain moment, donc il est là tout le temps ou il n'est là jamais. Non. Il vient dans une temporalité, mais la manière dont la science approche la temporalité ne va pas, d'une certaine manière, arriver à mettre le doigt totalement sur cette présence. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est deux registres. Hein? Ok. Alors, maintenant, oui. Oui.
Par exemple, que ce soit au niveau de la formation embryonnaire ou un enfant qui est annoncé père, par exemple, par rapport au processus d'évolution, si on dit que c'est à partir du moment où il y a des caractéristiques physiques qui permettent la formation embryonnaire, pourquoi est-ce qu'à notre échelle plus réduite, pourquoi est-ce qu'un enfant annoncé père peut essayer de diminuer?
Parce que dans le fond, c'est justement l'appartenance de cet enfant à l'espèce humaine. Un enfant, même anencéphale, même avec des pathologies génétiques, appartient à l'espèce humaine. Donc, c'est pas la génétique qui détermine, y compris même ce qu'est un humain au sens strictement biologique. Nous avons tous des différences génétiques d'une certaine manière.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un moment où il y a eu une certaine limite, enfin, un certain seuil qu'on a atteint en physique.
Oui.
Ben, pourquoi est-ce que maintenant, ça a donné la dignité à l'espèce humaine, mais maintenant on peut se retrouver physiquement en dessous de ses capacités.
Mmh.
Enfin, on a cette dignité.
Oui, oui. Mais parce que c'est une unité aussi âme et corps, je veux dire, c'est une unité. Donc la dignité ne vient pas seulement d'une dimension corporelle. Hein. Elle est aussi liée à ce don transcendant que Dieu nous fait d'une âme spirituelle. Même si cette âme ne peut pas déployer au niveau des capacités physiques toutes ses potentialités, mais l'humanité profonde est là, même si elle ne peut pas s'exprimer, parce que par exemple, alors il faudrait dire que, je ne sais pas moi, le non-voyant ou le sourd ou le... Hein, bon, il ne peut pas... Il y a des canaux qui sont bloqués, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas profondément un homme à part entière. D'accord? Parce que justement, c'est cette unité âme et corps. Et le corps peut être blessé ou le corps peut être limité sans que la dignité profonde en soit affectée. Parce que c'est justement la dignité n'est pas définie par la corporéité.
Mais ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi à un certain moment l'homme a eu
le besoin. Parce que probablement que si Dieu voulait des gens, des personnes libres de l'aimer et de dialoguer avec lui, etc., il fallait un minimum de conditions matérielles. On peut pas, par exemple, imaginer une liberté sans conscience. Et on peut pas imaginer la conscience sans une représentation de soi. Mais pour faire des représentations de soi, il faut déjà, comme condition nécessaire, une structure qui permette de faire ça. Et donc, la patience de Dieu, c'est d'attendre que la structure soit telle qu'elle soit homogène à la réception de ça, de cette dimension. D'accord ?